Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La vraie repentance et ses fruits pour retrouver le label très bon de Dieu. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Psaume 39, versets 5 à 6. La méditation de ce jour, chers frères et sœurs, nous amène à parler de la repentance et des fruits qui en découlent. Plus que jamais, dans ces temps de la fin, le message de la repentance est d'une grande et brûlante actualité. L'importance de ce message est telle que nous n'avons qu'à consulter les Saintes Écritures pour nous rendre compte de l'insistance du Père de gloire dans sa relation avec son peuple et ses enfants quant à cette attitude du cœur et de l'esprit. Déjà depuis l'époque de Noé, il est question de repentance. Puis ce furent les prophètes de Dieu qui poursuivirent avec le même message de la repentance. Ensuite, Jean le Baptiste leur a emboîté le pas, toujours pour marteler le même message de la repentance. Puis Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui est venu sauver les hommes, a déclaré en Marc chapitre 1 au verset 15 « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et plus tard, alors que Jésus-Christ s'en est rentré dans la gloire, les apôtres qui étaient avec lui ont persévéré avec le message de la repentance dans la bouche de Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cela est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 au verset 38. Le message de la repentance est donc un message invariable pour le peuple de Dieu et pour chaque fille et chaque fils de Dieu. Donc il incombe à tous ceux qui ont la charge de s'occuper des affaires du Père en enseignant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, de pérenniser ce message de la repentance, c'est-à-dire de l'immortaliser. Malheureusement, les prédicateurs de l'Évangile aujourd'hui, pas tous bien sûr, heureusement, les enseignants de la parole de Dieu ont abdiqué, sont en train d'abdiquer, ou ont tout simplement déjà abdiqué par rapport à cet enseignement libérateur et ô combien important. Le sujet de la repentance et de la nature funeste et mortelle du péché étant très dérangeant pour la chair, beaucoup, trop nombreux à mon goût, de prédicateurs de l'Évangile, d'enseignants de l'Évangile, préfèrent s'abstenir de les proclamer. Et cela est une démission coupable. C'est très important que nous parlions dans nos églises de ce message du péché, de la repentance et de la repentance. Pourquoi certains prédicateurs de l'Évangile, certains enseignants de l'Évangile préfèrent occulter ces deux messages? Tout simplement parce qu'ils veulent garder des membres dans leurs églises. Ils veulent demeurer populaires et avoir du succès. Personnellement, je le dis personnellement, je suis contre ce type de popularité et de succès. Ils veulent garder des membres dans les églises. Or, nous savons tous que Jésus-Christ n'est pas venu chercher des membres. Et quand il a donné le grand ordre de mission, juste avant de s'en retourner au Père, il n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des membres ». Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et il est très important pour nous aujourd'hui de comprendre qu'il y a une très très grande différence entre les disciples et les membres, entre les membres et les disciples. Et j'insiste, Jésus-Christ, pour son Église, pour l'œuvre de son Père, veut des disciples et non pas des membres. Pourquoi j'insiste sur ces choses ? Parce qu'alors que les disciples demeurent dans la parole de Christ, les membres, eux, viennent chauffer les chaises et les bancs. Alors que les disciples sont des flammes de feu, les membres sont des radiateurs qui chauffent juste les chaises et les bancs. Alors même que les disciples regardent aux choses invisibles, les membres, quant à eux, sont obnubilés par ce qui est visible, afin de satisfaire les convoitises de leur chair. Et j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que nous fassions quelques lectures ensemble dans la parole de Dieu concernant ces choses. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu en 1 Pierre 4, au verset 2. Mais pour une meilleure compréhension, nous allons lire à partir du premier verset. 1 Pierre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. La parole de Dieu déclare: ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Lisons encore ensemble, chers frères et sœurs, 2 Pierre chapitre 1er, et nous allons lire pour une bonne compréhension du verset 3 au verset 4. Il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et pour finir, nous allons lire Romains chapitre 13, le verset 14. Il est écrit, je vais lire à partir du verset 12, toujours pour une meilleure compréhension. Romains 13, versets 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous pourrez encore lire, si vous le voulez, Éphésiens chapitre 4, le verset 22. Alors même que les disciples sont conscients de leurs besoins d'affranchissement, les membres, eux, ne sont même pas conscients de leur état d'esclave, de captif, de prisonnier. Jean 8, 31 déclare, c'est Jésus qui parle, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et en Jean 8, 32, il poursuit en disant, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et 2 Corinthiens 4, 18 nous dit, « Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Vous pouvez encore lire, pour ce faire, 2 Corinthiens 5, verset 7, Romains 8, 24 et Hébreux 11, verset 1. Alors même que les disciples marchent avec crainte et se conduisent avec circonspection, en ayant compris bien sûr qu'ils sont en pèlerinage sur cette terre, qu'ils sont en pèlerinage, c'est-à-dire des étrangers et des voyageurs, sur cette terre, eh bien, les membres sont encore pleins de mondanité et aiment le monde. Or, il est écrit en 1 Pierre, au verset 1er, au chapitre 1er, 1 Pierre 1, de 17 à 18, il est écrit, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut. » Les disciples, mes chers frères et sœurs, vivent selon l'esprit, alors que les membres s'affectionnent et vivent selon la chair. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Vous pouvez lire Romains 8, 5 à 8 et Romains 12, 1 à 2, qui nous parle de la consécration à Dieu. Les disciples chassent le monde de l'assemblée, alors que les membres amènent le monde dans l'assemblée. Vous pourrez lire pour cela Éphésiens chapitre 2, verset 19, Jean 17, Hébreux 11, verset 13. Toutes ces considérations doivent nous pousser à vouloir être et demeurer des disciples et non pas des membres. En effet, ce sont les disciples qui sont participants de la nature divine, comme cela est écrit en 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Alors que les membres sont les simples assistants à la nature divine. Les disciples sont des acteurs dans l'œuvre de Dieu, alors que les membres sont des spectateurs incrédules. Ceci est une, comment dirais-je, bien-aimé dans le Seigneur, ceci est une preuve. Et j'affirme avec véhémence qu'il est impossible d'accéder à cette qualité de disciple et de ce fait d'avoir une véritable relation avec le Seigneur sans passer par le chemin de la repentance véritable et sincère. Il est impossible d'avoir une relation épanouie, une relation complice, une relation profonde, une relation vivante, une relation sincère avec le Seigneur sans passer par les eaux du Jourdain. C'est impossible, chers frères et sœurs. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'est le chemin de la repentance véritable et sincère? Qu'est-ce que nous pourrions dire à ce propos? Eh bien, je vais utiliser mes mots à moi. Ce que le Seigneur m'aimait sur mon cœur. Et je vais vous parler, en ce qui me concerne, du chemin de la repentance. Ce chemin de la repentance véritable et sincère, sincère et véritable, est le fait de réaliser, j'insiste, de réaliser le chemin parcouru par le Seigneur Jésus-Christ depuis Gethsémané, en passant par le prétoire pour finir au lieu dit du crâne Golgotha. Voilà le chemin. Voilà le chemin. C'est véritablement réaliser tout ce que le Seigneur a enduré sur son être et dans son être, et comprendre et croire que ces choses, il les a endurées à notre place. C'est vraiment cela, mon frère, ma sœur. Tu réalises le chemin parcouru, le chemin de douleur. Ésaïe 53 nous dit de Jésus, homme de douleur et habitué à la souffrance. Le Fils de Dieu a été appelé homme de douleur et habitué à la souffrance. Quelle douleur? Ta douleur, ma douleur, nos douleurs, notre douleur. Quelle souffrance? Ta souffrance, ma souffrance, notre souffrance. Il a supplié, il a pris notre place. Alors quand tu réalises le chemin parcouru, depuis son agonie à Gethsémané, en passant par son humiliation au prétoire, jusqu'à ce chemin de douleur qui l'a conduit jusqu'à Golgotha, où il est tombé à plusieurs reprises, si tu réalises ses genoux ensanglantés, si tu réalises la lourdeur, le poids que représentait cette croix qui est le symbole de nos péchés à tous, alors là, tu commences à être sur la bonne voie, tu es vraiment sur le chemin de la repentance sincère et véritable. Alors, concrètement, c'est quoi alors la repentance? Encore une fois, je vais le dire avec mes mots à moi. La repentance, c'est quoi? C'est décider, une fois qu'on a réalisé ces choses comme on vient de le dire, c'est maintenant décider de refaire le chemin avec Jésus. Non plus qu'il soit seul, mais qu'on l'accompagne dans ce chemin de douleur. Non pas qu'il ait besoin de nous, non, mais qu'on réalise vraiment, qu'on soit à ses côtés pour lui dire, tu as pris ma place, alors je t'accompagne. Simon de Cyrène a été forcé, mais nous, on n'a pas à être forcé. On veut l'accompagner, parce qu'on est conscient qu'il a pris notre place. Et c'est décider donc le chemin de la repentance, la repentance, c'est décider de refaire le chemin avec Jésus en reconnaissant à chaque étape, mais alors à chaque étape et à chaque moment, que toutes ces choses, c'est à nous, c'était à nous de les endurer. S'il est tombé, c'était à toi et à moi de tomber. S'il a eu soif, c'était à toi et moi d'avoir soif. S'il a eu faim, c'était à toi et moi d'avoir faim. S'il a eu des migraines, des violents maux de tête à cause des coups qu'il a reçus, c'était à toi et à moi d'avoir ces violents maux de tête et ces maux de ventre, etc., etc. Nous prenons ainsi la mesure de nos péchés et de leurs terribles conséquences. Cela nous pousse à louer le Seigneur et à lui rendre grâce pour ce qu'il a accompli pour nous. Cela va nous amener, chers frères et sœurs, inéluctablement à préparer à prendre, la résolution de ne plus pécher et de vouloir mener une vie qui honore son saint sacrifice. Vous pouvez lire le psaume 101. Comprenons bien, chers frères et sœurs, qu'une relation épanouie avec le Seigneur est tributaire, c'est-à-dire elle est dépendante de cette attitude de contrition devant lui. La vraie repentance est le socle d'une réelle et véritable relation avec notre Seigneur. Il est écrit dans le psaume 51, verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 57, au verset 15, nous lisons Ésaïe 57, verset 15. Il est écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc très concrètement, la repentance véritable et sincère ramène le cœur de l'homme vers son Dieu. Voilà pourquoi le processus même de la naissance en Christ, appelé encore nouvelle naissance ou régénération, commence par la repentance. Lorsque, mon frère, ma sœur, lorsque vous voyez quelqu'un prétendre, je dis bien prétendre, marcher avec le Seigneur depuis 2, 3, voire 10 ans, sans qu'il y ait des changements notoires dans sa vie, comprenez qu'il y a un problème, pour ne pas dire des problèmes, au niveau de sa repentance. Cette personne a pris un départ tronqué, et nous tous, nous savons qu'on ne peut on peut manipuler les hommes, mais qu'on ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas, mon frère, ma sœur, manipuler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est impossible. Personne n'a cette force, cette puissance-là de manipuler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ce frère qui prétend, cette sœur qui prétend, « Ah, je marche avec Dieu depuis 3, 5, 10, 15 ans, et dont la vie ne manifeste aucun fruit du royaume, ou peu de fruits du royaume, c'est que dès le départ, c'est-à-dire au niveau de sa repentance, il y a eu un problème, pour ne pas dire des problèmes. Et c'est au niveau de la repentance que nous devons aller chercher la solution pour ce frère, pour cette sœur. Il ne faut pas commencer à chercher les sorciers, Satan. Non. Parfois, nous donnons plus de pouvoir à Satan qu'il n'en a. Il est fort, d'accord, mais celui qui est en nous est plus grand et plus fort que lui. Donc, parfois, demandons seulement à Dieu de nous aider à discerner. Parfois, c'est juste un problème de repentance qui pose problème dans la vie du frère, dans la vie de la sœur. N'allons pas chercher midi à 14 heures. C'est très important, cela. Alors nous allons lire quelques passages de l'Écriture sainte concernant ce que nous disons là, que si quelqu'un prétend qu'il est en Christ et qu'il n'y a pas de fruits dans sa vie, des fruits du royaume dans sa vie. Et nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu. C'est important de toujours tout vérifier à la lumière des saintes Écritures. Moi j'aime en tout cas pratiquer comme ça. Nous lisons alors le psaume 33 et nous allons lire du verset 13 au verset 15. Psaume 33, du verset 13 au verset 15. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Nous lisons encore le psaume 119, le verset 168. Il est écrit « Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. » Et en Jérémie chapitre 16, verset 17, l'Éternel déclare « Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. » C'est ce que l'Éternel déclare en Jérémie chapitre 16, verset 17. Et dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 2, au verset 22, il est écrit, on parle de l'Éternel, « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Et vous pourrez encore lire à ce propos Hébreux, chapitre 4, du verset 12 au verset 13, et Proverbes, chapitre 5, verset 21. Un frère musicien chrétien de la République démocratique du Congo, le frère Lifoko du Ciel, pour ne pas le citer, a déclaré dans une de ses chansons « Je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer près de la croix et rester le même. » Cependant, moi j'ajoute qu'il y a deux manières de passer près de cette croix. Premièrement, on passe près de cette croix sans même la regarder, ou même en la regardant sans toutefois recevoir la révélation de ce qu'elle représente pour l'humanité tout entière et pour nous en tant qu'individus. Donc on passe près de cette croix, on ne la voit même pas. Et s'il nous arrive de la regarder, on ne reçoit pas la révélation de ce que représente véritablement cette croix que nous sommes en train de regarder, pour l'humanité tout entière, mais pour nous-mêmes en tant qu'individus. Il est écrit en Matthieu chapitre 27, du verset 39 au verset 40, « Les passants, alors que Jésus bien sûr était sur la croix, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple, et qui le rébâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Voilà une manière de passer près de la croix. On est en train de railler la croix. On ne reçoit pas la révélation de ce que nous voyons de nos propres yeux. Ceux qui passent près de la croix de cette manière-là sont tout à fait ces passants dont nous parle l'Écriture que nous venons de lire. Ils sont semblables à ces passants-là. Et en Marc, au chapitre 15, du verset 31 au verset 32, il est écrit « Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons. » Voilà ce que disaient les principaux sacrificateurs et les scribes, c'est-à-dire ce qu'on dirait aujourd'hui des responsables. C'est terrible ça. Ceux qui passent près de la croix de cette première manière que nous sommes en train de voir ensemble, c'est-à-dire juste regarder la croix passer sans discerner, sans recevoir la révélation, eh bien ceux qui passent près de la croix de cette manière-là sont au nombre de ces principaux sacrificateurs et de ces scribes-là, ceux qui raillaient la croix, ceux qui se moquaient de Jésus. Et ce qui vient de nous être dit là au travers de cette lecture de Marc 15, 31, 32, doit nous interpeller tous quant au fait que même des dirigeants et des responsables du peuple de Dieu aujourd'hui peuvent passer près de cette croix de cette manière-là. Et nous pouvons lire Matthieu 27, 62 à 64 et Matthieu 27, verset 43. Maintenant, quelle est la deuxième manière, la seconde manière de passer près de la croix? L'autre manière de passer près de la croix est de s'arrêter et de contempler et de méditer l'amour de Dieu qui suinte de la croix. De contempler et de méditer sur la gloire de Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, donnant sa vie pour tous les hommes sans distinction. Matthieu 27, 55 à 56, il est écrit « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, c'est-à-dire au début de son ministère, parce qu'il a commencé son ministère en Galilée. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parce qu'elles étaient, parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. » La preuve que cette manière de contempler la gloire de la croix, du calvaire, nous permet des moments absolument inoubliables avec le Seigneur, nous est donnée dans le récit de Matthieu 28, 1 à 10. Qu'est-ce qui est écrit en Matthieu 28, 1 à 10? Moi, j'aimerais que nous les lisions ensemble parce que c'est très important. Et nous verrons, comme je suis en train de le dire, que cette seconde manière de s'arrêter véritablement devant la croix, de s'y prosterner et de recevoir véritablement la révélation de ce que cette croix représente, eh bien, nous permet de vivre avec le Seigneur des moments absolument inoubliable pour nous. Et nous allons lire un passage de l'Écriture qui confirme ce que je suis en train de dire. Nous allons prendre Matthieu chapitre 28 et nous allons lire du premier verset au dixième verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alléluia. C'est là qu'ils me verront. Allez dire à mes frères. Mon frère, ma sœur, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Ton Seigneur n'est plus parmi les morts, il est ressuscité. Que cette parole te donne la joie et l'espérance. Le tombeau est vide. Ton Sauveur est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Ne cherche plus ton Jésus parmi les morts, parce qu'il n'est plus parmi les morts, il est parmi les vivants, ton Jésus. Voilà la grande nouvelle. Et il règne à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Alléluia. Donc cette manière de passer près de la croix permet d'accéder à des choses qui nous étaient impossibles, à des révélations que nous ne pensions même pas possibles. En Matthieu 27, au verset 54, il est écrit, « Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Et en Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 23, du verset 39 au verset 41, il est écrit, « L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. À cause de cette manière de passer près de la croix, celui qui a été brigand toute sa vie durant, celui qui a été toute sa vie durant loin de Dieu, a été rapproché, approché, embrassé par Dieu. Jésus lui dit en Luc 23, 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est extraordinaire, ça, n'est-ce pas? Dieu, dans son amour pour nous, laisse toujours la porte de la repentance entrouverte, afin que quelqu'un puisse toujours la passer, la traverser. Dieu n'a pas encore fermé la porte de la repentance. C'est pourquoi la Bible déclare « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Mon frère, ma sœur, la porte de la repentance est encore entrouverte. Vas-y, passe par cette porte, repens-toi, je t'en supplie, parce qu'il va arriver un temps où cette porte va se fermer, et là ce sera la catastrophe. La porte est ouverte, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'ennemi a réussi à distraire les enfants de Dieu en ce qui concerne la repentance et la nécessité de porter les fruits dignes de la repentance. Aujourd'hui, Satan, le diable et ses démons mettent tout en œuvre pour empêcher les hommes de se repentir et de retourner à leur Dieu. Ils ont toutes sortes de stratégies, toutes sortes de distractions. Vous n'avez qu'à voir tous les programmes télé. On veut faire la publicité d'un savon, on nous montre une femme nue. On veut faire la publicité pour une école, on nous montre une femme nue. Donc, des choses, toutes ces choses sont faites pour que l'homme continue à avoir le regard tourné vers le mal, pour l'empêcher de réaliser sa déchéance et de se repentir devant son Dieu. Pourquoi le diable et ses démons font-ils cela? Tout simplement parce que le diable connaît la puissance extraordinaire de restauration que déclenche une repentance sincère d'un enfant de Dieu, d'une créature du Seigneur. Il connaît, chers frères et sœurs, les dégâts occasionnés dans son royaume par cette attitude du cœur et de l'esprit qu'est la repentance. Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans leur course éperdue vers les miracles, les signes, les prodiges, la gloire personnelle et la reconnaissance des hommes, les enfants de Dieu ont oublié, chemin faisant, l'un des messages principaux que Dieu a adressé aux hommes et qui est un message invariable, comme nous l'avons déjà dit, indépendant de toute considération, de toute époque, de toute tendance, de toute mode, de toute situation géographique. Le message merveilleux de la repentance, du retour vers son Dieu, est un message qui ne dépend de rien. En Acte 17, 30, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Sans tenir compte du temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes, quel que soit le lieu où ils se trouvent, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation sociale, quelle que soit leur beauté, leur intelligence, leur possession, quelle que soit leur possession, Dieu dit aujourd'hui à tous les hommes de se repentir. Et ce message de la repentance concerne toutes les créatures du Seigneur qu'il a créées à son image et selon sa ressemblance, ces mêmes créatures dont il s'est exclamé en Genèse chapitre 1 verset 31, « Voici, cela est très bon. » Voici, cela est très bon, a déclaré l'Éternel Elohim. Mon frère, ma sœur, je veux que tu saches, je veux que vous sachiez que ce très bon prononcé par Dieu est réellement une certification céleste et a à voir avec la perfection infinie d'Elohim, le Dieu créateur. Et comme il n'y a pas de hasard avec notre Dieu, j'ai été amené à compter les nombres de lettres qui composent très bon. Et j'en ai trouvé 7. Nous savons tous que le chiffre 7 nous parle de la perfection divine. Donc, cette certification très bon a à voir réellement avec la perfection de notre Dieu. En Apocalypse, au chapitre 4, au verset 5, dans la partie B, il est écrit « Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Dieu a 7 esprits. Et ces 7 esprits parlent de la perfection de Dieu qui se retrouve dans son omnipotence, dans son omniprésence et dans son omniscience. Les hommes, l'homme est donc le très bon de la création divine. Il est appelé de ce fait à manifester la perfection divine dans sa manière d'être et de faire, comme cela est écrit en Philippiens chapitre 3. Mais le péché, encore une fois, a fait perdre à l'homme le label très bon. L'homme a perdu ce label. L'homme a perdu cette certification. Cette certification très bon lui a été retirée à cause du péché de l'Éden. Donc quand Dieu a chassé l'homme de l'Éden, il lui a retiré cette certification très bon. L'homme n'était plus le très bon. Voilà pourquoi nous ne dominons plus. Nous ne régnons plus. Nous ne sommes plus féconds. Nous ne multiplions plus. Nous n'arrivons plus à nous assujettir la terre parce que seul le label très bon, la certification céleste très bon, nous permettait de régner et de dominer. Dieu dit dans sa parole, dans le psaume 115, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais l'Éternel Dieu a donné la terre au Fils des hommes. » Et le péché nous a fait perdre malheureusement ce label très bon que Dieu nous avait donné à la création. Donc, il faut que nous comprenions cela, bien chers frères et sœurs. C'est vraiment un malheur ce qui est arrivé ce jour-là. Un grand malheur. Et seule la repentance sincère et véritable permet à l'homme de retrouver ce label unique, cette certification céleste, ce label qui le place en tête de la création et qui lui permet de régner, d'être ce roi avec un royaume, d'être cette reine avec un royaume. Vous pourrez lire 2 Samuel chapitre 11, vous verrez comment de la déchéance de David à cause du péché commis avec Bathsheba, suite à ce merveilleux psaume 51, à cette repentance extraordinaire de David, comment Dieu a été amené à dire « David est l'homme selon mon cœur ». Il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent pas comment ce Dieu a pu dire d'un meurtrier, d'un adultère, comment il a pu le qualifier de l'homme selon son cœur. Mais David, chers frères et sœurs, avait un secret. il savait se repentir quand il offensait son Dieu. Nous devons apprendre, à l'instar du roi David, nous devons apprendre à nous prosterner, à nous humilier devant la face de l'Éternel lorsque nous avons péché contre notre Dieu. Et en 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 14, l'Éternel Dieu dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est une promesse, et celui qui fait cette promesse, nous savons, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous parle d'une grande fête qui se déroule à chaque fois, qui se déroule dans les cieux, à chaque fois qu'un homme, dans le sens le plus large du mot, c'est-à-dire homme, femme, se repent. À chaque fois que cet homme ou cette femme retrouve ce label très bon que Dieu lui a donné à la création. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Luc 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est très important de méditer cette parole de l'Écriture. Une grande fête dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent de son péché ou de ses péchés. Car Jésus-Christ de Nazareth a déclaré « Je suis venu sauver ce qui était perdu. » Et il a dit encore « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades. » Et en réfléchissant à toutes ces choses, je ne peux m'empêcher de partager avec vous cette question qui me turlupine, c'est-à-dire cette question qui me tracasse. Que se serait-il passé si Adam et Ève s'étaient tout simplement repentis devant Dieu? Que se serait-il passé alors? Bien sûr, le plan souverain de Dieu ne prévoyait pas ce cas de figure, car il fallait que l'œuvre de rédemption, qui était préparée et voulue par Dieu soit fidèlement accomplie. Mais n'empêche qu'il est intéressant de se poser la question de savoir que se serait-il passé si Adam et Ève avaient tout simplement dit à Elohim, à l'Éternel, à notre Dieu, « Nous avons désobéi à ce que tu nous as dit, nous avons péché contre toi. » Que se serait-il passé, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'il t'arrive un peu d'essayer de méditer dans ce sens-là? En lieu et place de cette repentance, tellement importante aux yeux du Créateur, aussi bien Adam que Ève, ils ont commencé à se chercher des circonstances atténuantes, en rejetant la faute l'un sur l'autre et en cherchant des boucs émissaires. Que déclare Adam en Genèse chapitre 3, verset 12? « La femme que tu as mise auprès de moi m'a entraîné dans le péché. » Non seulement Adam rejette la faute sur Ève, mais il la rejette aussi sur Dieu implicitement. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est comme si Dieu lui avait fait un cadeau empoisonné en lui donnant Ève. Or, Dieu a vu que malgré toutes les beautés, les splendeurs qui entouraient Adam dans le jardin d'Éden, Adam avait toujours l'air triste. Et il a voulu lui donner Ève pour que Ève soit le sourire d'Adam, la joie d'Adam. Et je dis souvent que la femme doit être le sourire de son mari, la joie de son mari, de son époux. C'est pourquoi la Bible déclare « Celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé un trésor. » Ève, qu'est-ce qu'elle déclare en Genèse 3, verset 13? « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ève, quant à elle, elle préfère dire au Créateur que c'est le serpent qui est venu la séduire. Elle trouve un bouc émissaire en cet être qu'elle était, elle était pourtant appelée à dominer, c'est-à-dire le serpent. et elle aussi, implicitement, elle incrimine, elle culpabilise la glorieuse personne de Dieu. Parce que pour Ève, c'est Dieu qui a laissé faire. Il n'aurait jamais dû laisser le serpent s'approcher d'elle. Comment est-ce que Dieu a pu laisser faire une telle chose? Voilà ce que dit, voilà ce que pense Ève. Pourquoi tu ne l'as pas empêché? Pourquoi tu es Dieu, tu aurais pu empêcher cela? Mais Ève oublie, aussi bien Ève qu'Adam oublie que Dieu leur a donné le libre arbitre, la capacité de choisir. Oh, chers frères et sœurs, combien de fois, chers frères et sœurs, nous n'avons-nous pas eu ce genre d'attitude-là? Combien de fois n'avons-nous pas cherché à nous disculper en cherchant des boucs émissaires et en rejetant la faute sur les autres? Nos propres fautes, nous les rejetons sur les autres. Nous devons bien comprendre, chers frères et sœurs, que la vie est faite de choix. Et certains choix que nous faisons sont tantôt bons et tantôt mauvais. Cependant, nous ne devons surtout pas perdre de vue le fait que, quelle que soit la nature de notre choix, il entraînera toujours des conséquences sur nous-mêmes et sur les autres. C'est inévitable. Adam et Ève ont péché, mais les conséquences de leur péché ne les concernent pas seulement eux. Eux, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu la jouissance de la merveilleuse présence du Dieu créateur. Mais une cascade de conséquences a été engendrée par leur désobéissance. En Genèse chapitre 3, verset 15, que déclare l'Éternel ? « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette inimitié est telle que Caïn est amené à tuer son propre frère Abel par jalousie. Voilà une conséquence. Cette inimitié est telle qu'aujourd'hui nous luttons contre les dominations et les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Voilà une autre conséquence. La guerre spirituelle est une conséquence directe de cette désobéissance d'Adam et d'Ève. Genèse chapitre 3, verset 16. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cette conséquence concerne surtout les femmes qui, en attendant le moment d'exploser de joie à la naissance de l'enfant, du bébé, de l'enfant, les mamans passent par des moments difficiles, aussi bien pendant la grossesse que lors de l'accouchement. Il est aussi à noter que lorsque Dieu nous confie une vision, et par rapport à cela, j'aimerais ici ouvrir une parenthèse très importante. Il est à noter que lorsque Dieu nous confie une vision, avant que nous ne puissions arriver à accoucher de cette vision, il nous faut passer par toutes sortes de choses difficiles, de combats, d'adversités, d'oppositions. Il n'est jamais aisé de porter une grossesse céleste. Et je dirais qu'il est encore moins aisé de l'accoucher. Et à ce propos, l'exemple de Joseph est très explicite. Lisez Genèse 37, 5 à 36 et les chapitres 39 à 40 et vous verrez. Dieu a engrossé Joseph. Et cette grossesse céleste que portait Joseph l'a entraîné au fond d'un puits. Ses propres frères, par jalousie, l'ont jeté au fond d'un puits. Ils l'ont vendu. Il a été en Égypte, un pays qu'il ne connaissait pas, qui est loin de son père bien-aimé, privé de la présence de Jacob, son papa. Et Joseph, tout cela était dû au fait qu'il portait une grossesse céleste. C'est-à-dire, il avait en lui une vision divine. Il avait un projet spécifique de Dieu qui était dans ses entrailles. Il n'est jamais aisé de porter une grossesse céleste, mon frère, ma sœur, et il n'est jamais aisé de l'accoucher. La Bible déclare en Ésaïe 37 au verset 3 « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Il n'y a point de force pour l'enfantement. C'est terrible. Voilà pourquoi nous devons porter les visions de Dieu, la vision de Dieu, car il est le seul à nous donner la provision pour la porter et pour l'accoucher. Donc la vision que nous portons doit réellement venir de Dieu. Sinon nous ne disposons pas de cette provision qui est cette capacité de pousser pour l'enfantement. Si cette vision que tu portes, mon frère, n'est pas de Dieu, tu ne pourras pas l'enfanter. Ou bien tu vas enfanter un mort-né. Alléluia. Nous devons porter la vision qui vient de Dieu. Parce qu'il donne la vision, mais il donne aussi la provision. Il a donné la vision du Sauveur du monde à Marie, et il a donné la provision à Marie et à Joseph en tant qu'aide, bien sûr, afin de permettre à celle qui a répondu « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté ». C'est ce que Marie a répondu à l'ange Gabriel quand il est venu lui parler de cet enfant qu'elle allait bientôt porter. Et cela est écrit en Luc chapitre 1er au verset 38. Lisons ensemble, vous lirez l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, du verset 19 au verset 25. Voilà pourquoi nous devons recevoir notre vision de Dieu et uniquement de Dieu et non pas de nous-mêmes ou des hommes. N'accepte pas. Et même quand quelqu'un vient te dire « Dieu me dit, Dieu me montre », toi-même retourne-toi vers ce Dieu-là, il te confirmera ou il infirmera ce que tu as entendu. S'il te confirme, alors sache que ton combat commence parce que tu portes une grossesse céleste. Rappelle-toi, Marie, à cause de cette grossesse, elle a dû fuir en pleine nuit. Elle a manqué même d'endroit où dormir avec sa grossesse, son mari et le bébé qu'elle portait. À cause de cette grossesse, parce qu'elle était céleste, Marie a dû accoucher dans une étable, près des animaux. Ce n'est jamais aisé de porter une grossesse céleste, c'est-à-dire la vision de Dieu. Mais Dieu pourvoit, parce qu'il est Yahvé Jiré, et il veille sur la vision qu'il te confie, n'en doute jamais. Et Genèse chapitre 3, verset 17b. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause de qui? À cause de l'homme. À cause d'Adam. Pas à cause d'Ève. À cause d'Adam. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu dit que le sol est maudit à cause de l'homme, Adam. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a responsabilisé. C'est à lui que Dieu s'est directement adressé. Il était de ce fait le dépositaire du commandement qui était sorti de Dieu. Dieu s'attendait à ce que lui ne le transgresse jamais. Donc, très concrètement, la malédiction du sol est due à la désobéissance et à la défection, à la démission d'Adam, plus qu'à la désobéissance d'Ève. Certes, les deux ont désobéi, mais Dieu a mis un accent particulier sur la désobéissance d'Adam. Voilà pourquoi la malédiction du sol est attribuée à l'homme, Adam. Donc, en tant qu'homme, Adam, lorsque Dieu nous confie une vision, c'est-à-dire une grossesse céleste, nous devons veiller à ce que toutes les personnes à notre charge, c'est-à-dire l'Église qui nous est confiée, notre propre famille, nous devons veiller à ce que toutes les personnes qui nous entourent honorent et respectent cette vision, c'est-à-dire cette grossesse que nous portons. Je ne suis pas ici en train de dire que la désobéissance d'Ève n'est pas grave, Mais cela n'est pas du tout mon propos. Mais je veux que vous compreniez que Dieu a dit à cause de ce que tu as fait, et il s'adressait à Adam. Le sol est maudit à cause de toi. J'espère qu'on ne va pas me prendre pour un machiste. Je ne suis pas un machiste. Je pense qu'il est plus que temps que tous les hommes, c'est-à-dire les Adams, que nous reprenions les responsabilités qui sont les nôtres depuis les origines de la création. Responsabilités dont nous devrons à coup sûr répondre devant Elohim, devant notre Dieu. C'est très, très, très important. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment encore passé ensemble dans cet enseignement sur ce message ô combien important de la repentance. Mon frère, ma sœur, veille toujours à demander à Dieu qu'il te révèle comment lui il te voit au moment où tu lui parles. Non pas comment toi tu peux te voir, mais comme lui te voit. Parce que l'homme se cherche toujours des circonstances atténuantes, des excuses. Mais Dieu est le seul qui montre l'état réel, véritable des choses. Soyez bénis, je vous aime, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de tous les hommes. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.